France Culture.
Les nuits de France Culture.
Voici la suite et la fin d'une série de chemins de la connaissance que Jacques Meunier consacrait au messianisme américain en 2003. Cet épisode conclusif analyse la façon dont la constitution même du peuple américain, dans sa diversité, relève de cette idée de messianisme. Jacques Meunier recevait pour en discuter le politiste Denis Lacorne. C'était le 12 septembre 2003.
Les chemins de la connaissance, le messianisme américain par Jacques Meunier, aujourd'hui Smelting Pot avec Denis Lacorne. L'utopie messianique la plus voyante aux États-Unis aura sans doute été de réunir au sein d'une communauté qui s'est vite sentie nationale des individus en provenance de tous les pays de la vieille Europe. C'est ce qu'on a appelé le melting pot. Mais cette utopie du chaudron magique où se mêlent toutes les différences culturelles ou ethniques a fait place aujourd'hui à une doctrine plus réaliste, celle du multiculturalisme et d'une société plurielle. Il y aura, dans la cité sur la colline, un quartier blanc et un quartier noir, un quartier irlandais puis italien, des faubourgs portoricains. Denis Lacorne.
C'est-à-dire que c'est une nation qui est plurielle d'emblée, dès l'origine, puisque d'abord il y a une population locale, les autochtones, les Amérindiens, mais ce n'est pas eux qui vont forger la construction politique de la nation. Et puis il y a très vite des immigrés très divers dans leur origine, puisqu'il ne faut jamais oublier que ceux qui viennent du monde anglo-saxon, c'est des Anglais ou des Gallois ou des Écossais qui, à l'époque, au XVIIe, XVIIIe, se perçoivent comme des peuples très, très différents. Et puis aussi, très tôt, des Allemands en Pennsylvanie, tel point que Benjamin Franklin sera très inquiet, se demandera si la langue allemande ne va pas dominer la Pennsylvanie et menacer l'anglais. Des Hollandais, très nombreux. Il y a aussi des petites colonies françaises, les plus anciennes étant des Huguenots français. On a une immense diversité à transfert de l'Europe, dans le fond d'une Europe multiples vers un nouveau continent. Et je crois que les Américains ont bien compris la difficulté de créer une unité à partir d'une telle diversité, d'où cette devise « et pluribus unum » empruntée à Virgile, de plusieurs, un seul, uni dans la diversité. C'est un peu le pari américain qui, entre parenthèses, est le pari de l'Europe nouvelle, puisque cette formule « et pluribus unum », on la trouve en français dans le projet de constitution pour l'avenir de l'Europe, et il est traduit par le mot qui peut-être sera la devise de l'Europe, « unie dans la diversité ».
Alors ce pari, Denis Lacorne, c'est aussi, bien entendu, une forme d'utopie. En gros, celle du multiculturalisme, ce mot qu'on emploie beaucoup et qu'on entend beaucoup aujourd'hui.
Oui, c'est l'utopie, c'est pas le multiculturalisme en tant que tel, mais c'est que ça tienne, que malgré le multiculturalisme, on ait suffisamment de ciment social et suffisamment d'accord sur le bien public, sur l'abstraction qui est cette constitution américaine qui est mise en place très tôt et des principes politiques américains, que tout cela soit possible et compatible avec un pays qui fonctionnera dans la durée. Et on sait que l'histoire américaine est compliquée parce qu'elle est cyclique, il y a des rebondissements, des contradictions. Je dirais qu'il y a un premier moment que je qualifierais un moment d'hésitation et qu'on a bien vu lorsqu'il se demande qu'est-ce que va être le grand saut des États-Unis, donc ce symbole, cette icône pour ce pays qu'on va retrouver sur les billets d'un dollar. Ils vont d'abord se poser la question, est-ce que dans le fond on est une nation unitaire ou bien autre chose de neuf, de fédéral, est-ce qu'on serait une fédération de nations? Et dans le premier projet de grand saut conçu en 1776, mais qui n'est pas retenu, ils vont représenter l'Amérique comme un grand écusson dans lequel on trouvera six petits écussons qui représentent les peuples et les nations fondatrices qui seraient l'Angleterre, la Hollande, la France, l'Allemagne, avec leurs représentations, la fleur de lys par exemple pour la France ou pour l'Irlande, la harpe, etc. Et puis ils vont se dire, ben non, c'est pas ça, ça laisse l'idée d'une nation un peu désintégrée où on juxtapose et c'est pas vraiment notre idée, on veut autre chose. Et à ce moment-là, cette première conception va être remplacée par celle de bandes, un écusson unique avec des bandes bandes rouges et blanches, autant de bandes que d'États, 13 États. Et voilà, donc on a tout de suite, on va vers l'abstrait et on essaye d'oublier qu'au départ, il y a des nations un peu rivales, juxtaposées. Donc ça, c'est le premier moment abstrait politiquement. Et puis, plus tard, à une autre époque, mais alors là, il faut se situer à l'époque du racisme scientifique qui émerge, disons, ça commence avec la phrénologie et puis les conceptions dites scientifiques de la race. Et là, on va commencer à se dire, mais c'est très tardif, c'est pas du tout un moment fondateur, c'est à la fin du 19e, au début du 20e siècle, on va se dire, non, on doit constituer une race d'Américains et préférablement une race de Nordiques. Alors, le mélange, ça va. Le melting pot, oui, mais le petit melting pot. Mélangeons des Scandinaves avec des Anglais, des Irlandais à la rigueur des Allemands, ça va, mais surtout pas de Méditerranéens, surtout pas de Slaves, surtout pas de Juifs, parce que là, ça n'est plus possible, on n'aura pas ce peuple de Nordiques. Donc l'idée d'une race nordique, conception raciale de la nation, elle existe effectivement et elle va être très, très, très visible à tous les niveaux de la société à la fin du 19e, puisque c'est pas seulement les scientifiques, c'est les politiques aussi, les politiques qui vont passer des lois anti-immigration, les lois restrictives, les lois dites des quotas en 1924, 1929, etc., qui vont fondamentalement, pour faire très simple, éliminer toute immigration asiatique, toute immigration en provenance d'Italie, de Grèce, mais aussi d'Europe centrale, au bénéfice de ceux qu'on considère comme assimilables, parce que pouvant renforcer ce noyau nordique, c'est-à-dire au bénéfice des Allemands, des Anglais, des Irlandais et des Scandinaves.
J'entends chanter l'Amérique. J'entends ses diverses chansons. Celles des ouvriers, chacun chanter la sienne comme il faut, joyeuse et forte. Le charpentier chantait la sienne en mesurant sa planche ou sa poutre. Le maçon chantait la sienne en se mettant au travail ou en quittant le travail. Le batelier chantait ce qui lui est propre dans son bateau. Le matelot de pont chantait sur le pont du vapeur. Le cordonnier chantait assis sur son établi. Le chapelier chantait debout. La chanson du bûcheron, celle du garçon de ferme en route dans le matin ou au repos de midi ou à la tombée du jour. Le chant délicieux de la mère ou de la jeune femme à son ouvrage ou de la jeune fille qui coud ou lave. Chacun, chacune chantait ce qui lui est propre et à nul autre. Le jour, ce qui est propre au jour. Le soir, un groupe de jeunes gars, robustes, amis, chantaient à pleine voix leur mélodieuse et mâle chanson. Walt Whitman.
Denis Lacorne, vous voyez dans la tolérance religieuse presque indispensable, nécessaire à l'établissement de cette nation diverse du point de vue religieux, vous voyez dans cette tolérance religieuse en quelque sorte la matrice anthropologique qui permet de comprendre cette notion américaine du melting pot.
Je crois que la tolérance permet de mieux comprendre la notion de multiculturalisme qui elle-même est une critique du melting pot. Donc ça, on pourra revenir sur ces deux termes importants. Mais c'est vrai que la tolérance, à mon avis, ça anticipe plutôt le multiculturalisme, c'est-à-dire penser la pluralité dans un système qui est quand même unitaire. Mais en fait, le mot... Alors, je dirais que la chose existe avant le mot, bien sûr. Penser le multiculturalisme, c'est quelque chose qui existe très tôt. Et celui qui vraiment va essayer de théoriser à ce qu'il appelle, non pas le multiculturalisme, mais le pluralisme culturel, c'est-à-dire préserver une pluralité de cultures, de traditions, de religions dans un ensemble qui reste quand même national et peut-être patriotique, c'est Horace Kallen, qui est un philosophe américain et qui écrit là-dessus entre 1915-1925, ce sont ses premiers écrits. Et ce qui est intéressant dans le point de vue de Kallen sur le pluralisme culturel, c'est que c'est là, à ses yeux, une critique d'un autre modèle de la société américaine, parce qu'on alterne, dans le fond, entre la recherche de l'un, de l'assimilation, et puis l'inverse, qui est au contraire, préserver le multiple, qui serait le pluralisme culturel. Et Horace Kallen, ce philosophe élève de William James, est un critique très sévère de Israel Zangwill, qui est le grand écrivain anglais, le chantre du ghetto juif de Londres, et qui fait une pièce de théâtre qui s'appelle Le Melting Pot, et qui sera jouée à Washington en 1908, et qui sera un succès populaire, un succès intéressant, et d'ailleurs compliqué à expliquer, parce que c'est un succès, dans le fond, qui flatte les nouveaux immigrés, et qui leur dit, aussi différents soyez-vous les uns des autres, vous allez vous intégrer, l'assimilation est possible, c'est le melting pot, et c'est une pièce qui est quand même jouée à une époque où le racisme et la xénophobie atteint des sommets aux États-Unis, et on dit aux immigrés, on n'a plus besoin de vous, en tout cas, on ne veut pas de vous si vous venez, si vous êtes des Italiens, si vous êtes des Juifs, si vous êtes des Polonais ou des Russes. Donc c'est une pièce qui est à la fois contre-courant parce qu'elle déplaît aux élites, mais une pièce qui va être populaire parce qu'elle met en avant, dans le fond, ces nouveaux immigrés qui débarquent au début du XXe siècle.
Mais Denis Lacorne, melting pot et multiculturalisme sont finalement les deux aspects d'une même utopie messianique.
Oui, ou de... Est-ce que c'est... Alors, si on les réconcilie, oui, c'est une seule utopie messianique. Mais au départ, et c'est un peu ce que je veux dire quand je parle de crise d'identité américaine, c'est qu'il y a tension, dans le fond, entre une utopie qui est un messianisme presque jacobin, intégrateur, assimilationniste, où tous pareils, tous fusionnés ensemble, et il n'y a pas de place véritable pour les différences. Et puis une utopie opposée, qui est une utopie de préserver au maximum les différences, et dont la forme extrême serait le séparatisme, un espèce de fédéralisme intégral qui n'est pas celui qui est évidemment recherché par les États-Unis. Et une troisième utopie, alors peut-être pour revenir à votre question, qui serait la tentative de fusionner l'un et le pluriel, comme le souhaite la devise américaine. Et c'est là la chose la plus difficile au monde à réaliser, bien sûr, une unité dans la diversité. Et je crois que les Américains essayent de mettre ça en place, bon, avec les difficultés qu'on a signalées tout à l'heure, mais avec aussi cette chose nouvelle qu'on a du mal à conceptualiser, je crois, en France, qui est cette idée d'une multiple allégeance. C'est-à-dire qu'on peut être un Américain véritable, au sens de patriote, si vous voulez, au sens de engagé pour défendre le bien commun de la République américaine, un Américain véritable, tout en ayant des allégeances multiples à son groupe, à sa religion, à son ethnie, parce que ce sont des termes, il faut bien le dire, qui sont toujours utilisés aux États-Unis, et le mot « race » aussi, entre guillemets, est toujours utilisé aujourd'hui, y compris dans la plupart des textes de sciences sociales et dans les recensements américains. Donc il y a cette idée que on peut à la fois mettre ensemble, de façon harmonieuse, c'est le pari américain, c'est peut-être ça l'utopie américaine, mettre ensemble de façon harmonieuse le civique qui est pensé une unité abstraite politique, mais aussi une unité sociale qui serait le melting pot, et puis l'ethno-racial qui est ce qui reste des spécificités du groupe d'origine. Et c'est un peu ça la difficulté. Et c'est pour ça que pour expliquer, dans le fond, le fonctionnement de ce système, de cette tension entre l'un et le pluriel, j'utilise une image qu'on trouve chez Horace Kallen et d'autres auteurs. L'idée, dans le fond, que l'Américain qui a réussi son intégration, l'immigré qui a réussi son intégration, il n'aime pas beaucoup la phrase de hyphenated Américain, les Américains à trait d'union, polono-américain, italo-américain, arabo-américain, que sais-je. Non, lui, il préfère dire non, il faut comprendre, l'Américain, c'est cet être qui a plusieurs allégeances, qui est dans le fond plurilingue, qui est bilingue, qui est capable de parler tout à la fois, tout en même temps. Alors bilingue, parce qu'il parle le langage de la citoyenneté, avec cet attachement à des objets politiques que sont la Constitution, une tradition politique, des principes politiques. Et puis d'autre part, qui parle aussi la langue de sa tradition, qui est la langue de son ethnie, peut-être, ou de sa tradition religieuse, peut-être même une autre langue, continuer à parler l'allemand ou l'italien ou l'espagnol aux États-Unis. Et c'est ça que doit être un citoyen idéal tel que je l'imagine. Un être, donc, qui est au moins bilingue, qui a plusieurs, donc, allégeances.
Attention! The time has come!
L'Amérique, où les ailes d'un dôme ensoleillé s'épandent, j'ai vu dans l'air joyeux un étendard, étoilé comme la chevelure de Bérénice, flotter en déployant à l'envi sa superbe, avec un mouvement prolongé, onduleux, comme roulent les vagues brésiliennes, volumineuses sur la lune. Au-dessous, le pays reposait dans la paix, les enfants lovés dans la joie, tout contre le cœur exaltant de la jeune maternité. Plus tard, il flotta au combat, quand la tempête vint se fondre à la mêlée, et sur la pointe de la hampe, je vis l'éclair ambigu se jouer. La valeur combattait la valeur et mourait. Farouche était le désespoir, cruel l'orgueil. Et la mère désolée restait sans voix, pâle devant la fureur de sa progéniture. Herman Melville, poème de guerre.
Et lorsque vous parlez de crise de l'identité américaine, Denis Lacorne, vous voulez dire que la crise est en quelque sorte naturelle et structurelle presque à cette identité américaine, du fait justement de cette diversité, ou est-ce que ça veut dire que ce modèle d'intégration est en crise aujourd'hui ?
Non, alors je crois que c'est plutôt le premier sens, c'est-à-dire la crise elle est structurelle puisqu'on a... On n'a jamais d'unité au départ. On a des peuples très multiples, des religions différentes, des langues différentes, et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Transportez-vous imaginairement aux États-Unis au XVIIe ou XVIIIe siècle, on ne sait pas du tout ce que ça va tenir. Est-ce qu'on va avoir 3, 4, 5 pays ? Est-ce qu'on va avoir une colonie anglaise comme le Canada ? On ne sait pas trop ce que ça va donner. Et puis, il y a des conflits entre ces groupes. Donc, il y a toujours un risque d'explosion, de sécession. Mais ça, c'est réglé après la guerre de sécession. Et aujourd'hui, même si on tient compte des formes les plus radicales de multiculturalisme, par exemple l'afrocentrisme ou le projet d'une nation de l'islam de Louis Farrakhan, qui serait réservé à des Noirs américains, ces projets-là n'ont pas vraiment abouti. Et il n'y a pas de danger de balkanisation en ce sens où... Dans le fond, et c'est la force des États-Unis, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les États-Unis, les Balkans, d'autres pays. Le multiculturalisme n'a pas, ou l'ethnicité aux États-Unis, n'a pas de fondement territorial. Donc au pire, vous aurez des problèmes entre tel et tel groupe, qui sera des problèmes de xénophobie, passagers en général, mais qui peuvent être, disons, durs à vivre pour ceux qui sont dans le groupe qui est aujourd'hui ou à l'époque détesté. C'était les Irlandais, je disais, au XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est les Arabes, évidemment, qui ont des difficultés à vivre leur américanité après la guerre de l'Irak et les événements de septembre 2001. Mais il n'y a pas, puisqu'aucun État n'est possédé, contrôlé par une ethnie particulière, il n'y a pas de risque de sécession, comme il peut y en avoir encore au Canada avec le Québec, ou même en Belgique, où la partie flamande peut se séparer de la partie wallonne, etc. Il n'y a pas ce type de risque. Donc la crise n'est jamais, je dirais, fatale dans le cas américain. Elle l'avait peut-être été au moment de la guerre de sécession, mais là, ça a été dépassé. Donc on n'a pas eu deux États-Unis, mais un seul. Et d'ailleurs, je rappelle que avant la guerre de sécession aux États-Unis, on disait les États-Unis, ils au pluriel, ils font ceci, ils font cela. Aujourd'hui, les États-Unis en anglais, ça veut dire les États-Unis, c'est singulier, ça s'accorde avec le singulier. Les États-Unis et verbe au singulier. Et cette évolution grammaticale et symbolique de la force de ce système. Alors, la crise, on a pu croire, surtout dans les années 60, et peut-être en donnant une importance trop exagérée au politiquement correct, qui est un mot que je refuse d'utiliser parce qu'il est, il est trop flou, et trop d'importance aux formes les plus radicales du multiculturalisme, on a pu penser que le multiculturalisme, ça allait faire imploser la nation américaine, comme le laissait entendre, par exemple, Arthur Schlesinger, le grand historien américain, mais aussi Huntington, qui, on parle beaucoup d'Huntington et du clash, du choc des civilisations entre le monde chrétien, le monde de Confucius et le monde de l'islam. Mais curieusement, Huntington disait exactement la même chose à propos des États-Unis et s'inquiétait, lui, d'un clash entre des sociétés, des mentalités latino-américaines et le monde anglo-saxon qui est celui des vieux Américains. Et il voyait ça comme quelque chose d'inéluctable qui allait affaiblir définitivement les États-Unis. Et là, je crois qu'il a complètement tort. C'est vrai que les Latinos sont parmi les nouveaux immigrés les plus nombreux, puisque les Américains d'origine hispanique aujourd'hui, ils sont quoi ? Ils sont 38 millions d'habitants, c'est énorme. Ils sont plus nombreux que les Noirs, c'est la minorité la plus grande aux États-Unis. Et que je sache, il n'y a pas de reconquête espagnole, il n'y a pas de menace pour l'unité ni des États-Unis, ni de la Californie, ni de la Floride, malgré cette masse très très nombreuse de nouveaux immigrés qui viennent d'ailleurs de tas de pays différents d'Amérique latine, pas seulement du Mexique.
Les États-Unis aux critiques du vieux monde. Ici, d'abord, les devoirs d'aujourd'hui, les leçons du concret, richesse, ordre, voyage, abri, produit, abondance. C'est comme si l'on bâtissait quelque vaste édifice, varié, perpétuel, d'où s'élèveront inévitables, avec le temps, les voûtes orgueilleuses, les lumières, les flèches altières solidement plantées, dardant vers les étoiles. Walt Whitman.
Le messianisme américain. Aujourd'hui, Smelting Pot avec Denis Lacorne, auteur de La crise de l'identité américaine chez Gallimard. Texte lu par Sophie Gubry. Les chemins de la connaissance, Franck Berger, Rémi Fessard, Claude Giovanetti, Jacques Munier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 12 septembre 2003.